RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, c'est le Tour de France, la route du Tour de France pour l'avant-dernière étape de cette grande boucle 2018. Nous sommes dans le Pays Basque aujourd'hui pour le dernier grand rendez-vous avant l'étape de prestige demain sur les Champs-Élysées, le champagne, les petits fours et le maillot jaune définitif sans doute sur les épaules de Geraint Thomas. En attendant, il y a donc ce dernier grand rendez-vous, c'est un contre-la-montre de 31 km sur les routes tourmentées du Pays Basque, les routes magnifiques ont pris place, beaucoup de spectateurs aujourd'hui avec notamment pas mal de petits drapeaux basques, l'Ikurriña qui flotte au vent du Pays Basque. Un temps un peu orageux aujourd'hui avec de la pluie ce matin, la pluie qui a cessé mais qui menace à tout moment de reprendre. Pour évoquer ce contre-la-montre et tous les enjeux qui en découlent, Cyril Guimard est évidemment là, le nez dans les chronos, il adore cet exercice. Salut Cyril.
Oui, salut, bonjour, bonjour à tous.
Jérôme Coppel était un spécialiste du chrono en son temps. Oh, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, il y a deux ans,
trois ans. Il y a deux ans, c'est ça, bonjour à tous.
Toujours un moment très attendu pour toi, le contre-la-montre, surtout la veille de l'arrivée, celui qui décide de tout ou presque.
Ouais, c'est ça, non, j'adore ça, j'attendais cette étape avec impatience, donc je suis content de la voir et voir le résultat qu'elle va donner.
Oui, parce que les enjeux sont multiples, on va en parler avec Fred notamment, qui est là, évidemment, comme tous les jours. Salut Fred.
Bonjour à tous.
Beaucoup d'enjeux, le podium notamment, la cinquième place aussi, et puis il y en aura pour tout le monde. Sur ce contre-la-montre, même si pour certains ça s'apparente tout de même, Jérôme, faut bien le dire, à une étape de semi-repos, étape de récupération. Le Tour de France est terminé pour certains déjà.
Bah pour certains oui, là ça va leur faire deux jours un peu plus cool. Maintenant faut quand même rouler parce qu'il y a des délais, le parcours est loin d'être facile. J'ai eu la chance de le faire en voiture, donc voilà, faudra quand même un peu s'employer. Maintenant ceux qui jouent rien, voilà, vont le faire tranquillement et vont profiter du public extrêmement nombreux au bord des routes.
Oui, beaucoup de monde aujourd'hui. C'est un véritable succès populaire que ce contre-la-montre. Il faut dire que ça faisait quelques années que le Tour de France n'était plus passé au Pays Basque. Il évite souvent les régions touristiques en fin de Tour de France quand il y a beaucoup de touristes. Mais là, eh bien, on est passé au Pays Basque et ça valait le déplacement. C'est vraiment toujours aussi magnifique ce pays, même s'il y pleut souvent, presque plus souvent qu'en Bretagne, hein, Cyril. Hein. Il pleut plus au Pays Basque ou en Bretagne, à ton avis?
Je pense que on est à peu près sur les mêmes bases. Il suffit de regarder ici au Pays Basque la verdeur de la végétation pour savoir qu'il pleut souvent au Pays Basque, mais il pleut souvent en Bretagne aussi.
Eh oui, à l'ouest de la France, il pleut régulièrement.
C'est normal, nous sommes en bord de mer,
en bord de l'océan
Atlantique et nous bénéficions des bienfaits de la mer.
Exactement. Également avec nous cet après-midi, ils vont nous accompagner tout l'après-midi, la moto. Pour l'instant, il est un peu esselé, il est abandonné par son motard, Pierre-Yves Leroux, qui se trouve dans la zone départ. Salut Pierre-Yves.
Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on prendra la moto tout à l'heure vers 16h avec les premiers du classement. Donc pour l'instant, zone de départ où Peter Sagan se rapproche tranquillement. Il va monter sur la rampe de lancement. À l'instant, vous l'entendez peut-être autour de moi avec le coude protégé depuis sa chute, le coude droit. Le genou droit également est touché et puis le dos, on sait également, et il faisait un petit signe il y a quelques instants lors d'une discussion avec un certain Miguel Indurain. Il lui faisait signe de la main. C'est moyen au niveau des sensations, donc ça sera sans doute pas un grand chrono pour Peter Sagan aujourd'hui. Jonathan Castroviro vient de s'élancer de la rampe de lancement. C'est lui le champion d'Espagne du contre-la-montre et évidemment il a discuté lui aussi avec le quintuple vainqueur du Tour de France, Miguel Indurain.
Et Miguel Indurain qui est venu en voisin, lui qui habite de l'autre côté de la frontière. Miguel Indurain, quintuple vainqueur du Tour de France et qui était un redoutable client dans cet exercice du chrono, Fred. Hein.
Oui, lui qui a remporté 5 Tours de France, on le rappelle, effectivement, Miguel Indurain qui vit à Pampelune, là où le service course de l'équipe Movistar est installé depuis toujours, depuis que cette équipe a vu le jour sous le nom de Reynolds à l'époque. Reynolds, Banesto, Il Balear et puis Movistar via la caisse d'épargne, on s'en souvient. Miguel Indurain qui se fait relativement rare, il a trouvé le quintuple vainqueur du Tour, un mode de vie vraiment à son image, discret, pépère, mais efficace et qui lui convient au mieux. Il est père de famille, il est marié et il prend la vie par le bon bout. Je pense qu'il a fait de solides et fructueux investissements. Il apparaît sur quelques cyclosportives de temps en temps, mais il est à l'image du coureur qu'il était, le monsieur Indurain d'aujourd'hui. La force tranquille.
La force tranquille de Miguel Indurain, quintuple vainqueur du Tour de France. Il ne sera pas rejoint, tout comme Bernard Hinault, Jacques Anquetil, et il m'en manque un.
Eddy Merckx,
le plus grand de tous, les quintuples vainqueurs du Tour de France qui ne vont pas entrer un nouveau membre dans leur groupe très fermé cette année, puisque Christopher Froome visait une cinquième victoire sur les routes du Tour. Bah, ce sera pas pour cette année, peut-être l'année prochaine.
Peut-être jamais. Voilà. Il y aura des vraies questions à se poser en ce qui concerne Christopher Froome à partir de dimanche soir seulement, parce qu'on ne fera pas le bilan avant d'avoir vu les Champs-Élysées, mais beaucoup de questions se posent sur la suite de la carrière de Christopher Froome, âgé de 33 ans. Est-ce qu'il a plafonné cette année? Est-ce qu'il a été victime de sa programmation qui lui a tout de même permis de remporter le Giro il y a deux mois? On s'en souvient. Il y aura des questions à se poser chez Christopher Froome et chez beaucoup d'autres coureurs qu'ils aient vécu un Tour de France bon ou mauvais. C'est toujours très intéressant, le débriefing du Tour. Il se fait soit à chaud, soit à froid, soit les deux d'ailleurs. Christopher Froome sera-t-il à nouveau sur les routes du Tour l'an prochain? On peut se poser la question.
En tous les cas, Peter Sagan devrait y être. Peter Sagan qui vient de s'élancer. Jérôme, première impression visuelle, c'est pas ça hein, pour Peter Sagan qui était en souffrance hier et qui va faire ce chrono au pépère. Le but pour lui, c'est de rallier les Champs-Élysées avec peut-être l'ambition de remporter la dernière étape demain. Mais de toute façon, c'est de ramener le maillot vert sur les champs.
C'est ça. S'il arrive sur les champs, il aura le maillot vert. Mais voilà, encore un indice du fait qu'il va faire le contre-la-montre tranquille, c'est qu'il a même pas mis de combinaison. Donc il a mis un cuissard et son maillot vert qui porte sur les étapes, mais il a pas mis de combinaison. Donc voilà, il va faire ça à sa main et puis essayer de récupérer au mieux avant l'étape de demain.
Tu le disais, il y a des délais tout de même à respecter dans le chrono, comme dans les étapes de montagne.
Ouais, c'est ça. Il y a des délais, c'est 25%, je crois. Donc, voilà, c'est 25% sur un chrono, c'est quand même assez large. Hein, attention, mais faut pas le faire vraiment dedans, parce qu'on peut être hors délai, mais surtout sur un parcours comme ça qui est assez dur. Mais c'est quand même large. Si on le fait un minimum bien, un minimum sérieusement, il n'y a pas de problème pour entrer dans les délais.
25% de 42 minutes à peu près, hein, c'est le temps de référence pour l'instant qui a été signé par un Australien, Hepburn, dont on va reparler dans un instant. On va également accueillir Yann Pécheral qui lui se trouve derrière la ligne d'arrivée avec la HF comme tous les jours pour recueillir les impressions des coureurs et qui aujourd'hui va devoir bosser tout au long de l'après-midi. Ben oui, Yann, c'est les cadences infernales aujourd'hui pour toi. Comment ça va mon petit Yann?
Bonjour Christophe, salut à tous et je suis très très soulagé de t'entendre à l'antenne Christophe, parce qu'il faut quand même signaler aux auditeurs que tu as confondu ce matin départ et arrivé et que c'est la première fois dans l'histoire des RMC que voilà, qu'on se trompe, on confond le départ et l'arrivée. Donc c'est arrivé au dernier moment.
C'est mon pilote qui s'est trompé. Hein, moi je ne suis pour rien.
La faute des autres,
mon pilote était complètement là. Mais d'habitude,
on veut le nom du pilote.
Le pilote doit préparer sa feuille de route et le pilote aujourd'hui, voilà.
Il y a le soulagement.
Avait rentré Espelette sur le GPS. Ouais. Le problème, c'est que avant Espelette, il y a Saint-Pé-sur-Nivelle. Nous sommes retrouvés bloqués et comme nous n'avons pas le bon bandeau qui nous permet de faire la route de la course et que nous devions mener le guide, notre druide, ouais, à tous pour les grandes gueules du sport, nous sommes un peu perdus.
Et je peux te dire qu'avec le bon bandeau, Christophe, on s'est régalé avec Jérôme, parce que ça nous a permis de voir que ce parcours était très difficile et qu'il était magnifique. Les routes sont magnifiques, il y a énormément de monde, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Tu parlais tout à l'heure d'une journée de repos pour certains coureurs. On va interviewer les coureurs à leur arrivée. Il y en a une cinquantaine déjà qui sont passés et ils nous parlent pas vraiment de journée de repos, parce que le parcours est tellement exigeant, tellement casse-pattes que il y a quand même beaucoup d'efforts à faire pour arriver ici et tout le monde est un petit peu rincé, surtout après trois semaines de tour.
Évidemment, la fatigue commence à se faire sentir sérieusement dans les jambes des coureurs. Fred, on va faire un premier point puis on va s'intéresser ensuite à tous les principaux partants qui s'élanceront en fin d'après-midi. On rappelle que le dernier à s'élancer, ce sera tout à l'heure Geraint Thomas qui partira, je crois, 16h29, 2 minutes auparavant Dumoulin, 2 minutes encore avant Roglic, Froome, Kreuzweit, Landa, Bardet s'élancera à 16h17. Il y a des enjeux pour chacun de ces coureurs et pour les premiers, il y a aussi la victoire d'étape. Et pour l'instant, c'est donc un Australien qui est en tête à l'issue des 50 premiers arrivés ici sur la ligne, le Top Course.
55 coureurs arrivés, pour être très précis. Deux Australiens et deux coureurs de la même équipe australienne, Mitchelton Scott. Il s'agit de Michael Hepburn et Luke Durbridge qui possèdent les deux meilleurs temps. Hepburn qui a réalisé un excellent chrono de 42 minutes 15. Son dauphin est à plus d'une minute 10, une minute 13 très exactement. Le premier français est dixième, c'est Laurent Pichon. Pour l'instant, 69 coureurs se sont élancés. Tu parlais des favoris. Les favoris, on en reparlera dans ouais, quelques
oui,
instants.
Oui, parce que Pierre-Yves Leroux se trouve à côté d'un garçon dont on vient de parler. Pierre-Yves.
Oui, effectivement, avec Miguel Indurain, le quintuple vainqueur du Tour de France, qui est ton voisin, vous le disiez il y a quelques instants. Miguel, ¿cuál es tu actividad ahora?
Bueno, estoy jubilado. Ahora estoy en en la retraite de
je suis à la retraite.
Du cyclisme,
du cyclisme bien sûr.
Cyclo sportif,
je fais des cyclos.
Imagen para el ciclismo, para
de
una
rondo.
Banca, antigua Banesto, ahora Santander en España y un poco de trabajo.
¿Cuál es
un peu pour Banesto à Santander également.
Para hoy.
Ton pronostic pour aujourd'hui, Miguel.
Demain, el que tiene que por el podio a Paris, hacer un buen contralamón, sino el podio es difícil. Pienso que es el máximo favorito. Thomas tiene dos minutos de avance.
Dumoulin es mi favorito.
Un poco más calma.
¿Qué piensas del Tour de France de Geraint Thomas?
Bueno, estuvo bien. La ha hecho una primera semana muy fuerte, sin problemas.
Geraint Thomas ha hecho una caída. Primera semana sin problemas.
Regular.
Ensuite, il a été très régulier.
Muy
tout au long de la deuxième semaine dans les Alpes.
Finalmente, los ganadores actuales se parecen a ti bien contra el Jero y en las montañas.
Oui, les prétendants à la victoire finale aujourd'hui sont des rouleurs qui passent très bien la montagne.
Para contrarreloj no hay mucha oportunidad porque no hay casi contrarreloj, solamente esta que
es aujourd'hui, il faut être un coureur complet, mais il faut noter qu'il y a moins de contre-la-montre cette année qu'à mon époque.
Difficile.
Última pregunta.
Et même les contre-la-montre ne sont plus des exercices pour pur rouleur. Les parcours sont assez casse-pattes.
Bueno, c'est igual, es un buen corredor, lleva ya 4 victorias. Y si no ha podido este año, está difícil.
Quant à Froome,
c'est
évidemment un excellent coureur.
Para
il a vécu une année difficile.
Año, pienso que tiene carácter para intentar de nuevo.
Cette année, gracias, il s'est loupé parce qu'il y a eu la Vuelta, il y a eu le Giro, mais il a assez de caractère pour retenter sa chance et pour venir égaler mon score de 5 victoires l'année prochaine. Et
voilà, Miguel Indurain, donc quintuple vainqueur du Tour de France. Il fait partie de ce club très fermé, donc des quintuples vainqueurs avec Bernard Hinault, Jacques Anquetil et je l'ai dit voyez, Merckx, encore une fois, j'ai failli l'oublier.
Oui, vous voyez que
Merckx, le cannibale.
J'ai pas menti, hein, il profite de sa vie, cyclo, rando, il bosse quand il en a envie, il a sa sœur aussi qui s'occupe de ses affaires depuis bien longtemps maintenant, même lorsqu'il était coureur. Vous l'avez entendu au son de sa voix, le roi Miguel n'a pas changé et il dégage toujours cette solidité, cette force tranquille. Il aura traversé la carrière avec une image et un caractère qui lui est bien particulier. Est-ce qu'il laissera, est-ce qu'il a laissé, Cyril, une empreinte digne de son talent ou au moins digne de son palmarès? C'est un coureur qui était très effacé, c'est un homme qui l'est tout autant. Est-ce qu'à tes yeux, toi qui es pour qu'un champion s'affirme et revendique des choses...
Ah, c'est pas Bernard Hinault.
Est-ce qu'à tes yeux, il y a un gâchis, Indurain?
Gâchis, non, il a vécu la vie qu'il avait envie de vivre et tu l'as souligné, il continue à vivre la vie qu'il avait envie de vivre. On ne le voit pas au travers des médias depuis qu'il a arrêté de courir ou très rarement ou dans des cirques. Merci.
Je suis désolé mon Cyril, tu vas être coupé régulièrement aujourd'hui parce que les coureurs arrivent les uns après les autres sur la ligne d'arrivée avec, je crois, Johan Ofredo qui est avec Yann Pécheral.
Tout à fait, avec Johan Ofredo qui a sitôt passé la ligne, regardé son vélo, la roue de son vélo et il a chuté, Johan Ofredo, et manque de chance en plus, gros problème de frein pour toi.
Ouais, sur un chrono comme ça, j'ai pas grand chose à espérer, si ce n'est prendre du plaisir pendant les 34 km du contre-la-montre, si plaisir il y a dans un effort qu'est le contre-la-montre individuel. Mais effectivement, j'ai perdu mes freins. Je sais pas où ils sont restés, mais je les ai perdus. Du coup, c'était assez folklorique. J'ai freiné sur les pieds. Je disais aux gens de se pousser sur le bord de la route Et Dieu seul sait combien il y avait de personnes sur le bord de la route. C'est toujours super agréable sur ce tour de voir autant de monde. Mais voilà, mon chrono restera non pas anecdotique pour moi, parce que je vais m'en rappeler et je raconterai ça à mes petits-enfants quand je serai plus vieux.
Tu as perdu tes freins à quel moment du chrono?
J'ai perdu, à mon avis, en même temps que mes jambes dans une des premières montées, et du coup j'ai fait comme j'ai pu. J'avançais tout doucement dans les descentes et puis je freinais avec mes cales. D'ailleurs mes cales doivent être un peu effectivement ils sont râpés.
Mais tu avais pas de voiture derrière pour changer de vélo?
No comment.
Ok, un mot quand même sur ton tour en général, Johan, quel bilan tu en fais?
J'ai un bilan assez mitigé parce que malheureusement c'était mon deuxième Tour de France. Et quand c'est un deuxième Tour de France, c'est complètement différent parce que un premier tour, on y va avec toute l'insouciance et la fougue que qu'implique les premières fois. Et la deuxième fois, c'est une deuxième fois, c'est pas pareil. Donc on sait à quoi s'attendre, on sait la difficulté. Et du coup, je me suis un peu moins lancé dans les attaques que ce que j'escomptais. Et pour ça, je suis un peu déçu.
Merci Johan. Si vous trouvez les freins de Johan Offredo sur le parcours, merci de les ramener au bus Wanty Group Gobert.
Mais bon, Yann, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il a encore les étriers de freins qui sont sur le vélo ou est-ce qu'il n'y en a plus du tout? C'est quoi? C'est les patins qui sont usés? Dis-nous.
C'est freins. Je suis en train de regarder le vélo de Johan parce que je me suis un petit peu écarté. Johan, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec tes freins? On est toujours en direct.
Oh ben je sais pas, c'est les aléas de la course, hein. Ça arrive sur tous les vélos malheureusement. Les mécanos font un gros travail à chaque fois sur les vélos, non, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un ennui mécanique. À mon avis, ouais, c'est effectivement les plaquettes qui ont sauté. Je viens de le voir aussi. J'ai plus de plaquettes.
Voilà, s'il y a plus de plaquettes. Voilà, vous avez les freins sans plaquettes, freins à disque sans plaquettes.
Ah, disque sans plaquettes. Voilà,
vive
messieurs.
Le progrès, hein, vive le progrès. C'est pas la première fois qu'on souligne qu'il y a encore des choses à améliorer sur les freins à disque. Oui, c'est très beau. Oui, c'est très efficace quand cela fonctionne. Mais quand ça tombe en panne, ça demande de la logistique, de la maintenance pour assurer derrière. Très particulier quand même cet exercice, Johan Offredo. Un parcours aussi exigeant avec des montées et des descentes.
D'habitude, dans les contre-la-montre, on n'a pas beaucoup l'utilité des freins, mais sur ce parcours particulier, ouais. C'est différent.
Alors j'imagine qu'il a réussi quand même à freiner, mais sans plaquettes, c'est-à-dire qu'il a dû détruire les disques avec les mâchoires qui ont serré sur le disque, parce que je n'imagine pas qu'il a fait le parcours en freinant avec les cales.
Non, mais il a pas perdu les plaquettes à l'avant et à l'arrière, c'est impossible.
Non, mais son vélo à l'avant ne freine pas du tout. Hein. Son vélo à l'avant, ça roule. D'ailleurs, quand il est arrivé sur la ligne, il a freiné à fond, il a fait tourner la roue devant la caméra et il y avait absolument rien qui se passait sur la roue avant. Donc, effectivement, par contre, ce qui est vrai, c'est que sous ses chaussures, les cale-pieds sont usés, sont abîmés. Donc, il a dû sortir les pieds parfois pour freiner. On regardera ça.
Oui, mais il lui restait le frein arrière pour se ralentir. Bon. Heureusement.
Bon. En tout cas, on voit que même sur le Tour de France, même sur la plus grande épreuve du monde qui réunit les meilleurs coureurs et les meilleures équipes du monde, parfois il y a des loupés et pas n'importe lesquels. Ça peut arriver à tout le monde et même aux équipes professionnelles d'avoir des défaillances. En tout cas, là, Johan Offredo au micro l'a quand même bien souligné. Son no comment était quand même assez évocateur.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de voiture directeur sportif derrière.
Si, il y avait une voiture, mais je pense qu'il n'avait pas pris la peine de mettre un vélo de rechange. Il devait avoir une ou deux roues de rechange et je pense qu'il a voulu souligner le manque de soutien dont il est victime.
Bah, on lui a posé la question, c'est pas lui qui l'a dit directement.
Ouais. No comment.
Très bien, on rappelle que pour l'instant le meilleur temps est à mettre à l'actif de deux garçons qui sont à égalité parfaite. Eburn et... ça y est, un petit changement. Non, c'est Eburn qui est en tête, hein, Fred.
Oui, toujours. Toujours.
Durbridge était à 1:13, pardon.
Oui, et un coureur de l'équipe Katyusha, Nils Polit, le grand gabarit, qui a beaucoup roulé hier sur la magnifique étape de montagne en direction de Larens. Il roulait pour Ilnur Zakarin. Nils Polit vient prendre la deuxième place. Le premier français est sont au-delà du top 10 désormais. C'est Laurent Pichon, le breton de l'équipe Fortuneo Samsic, qui lui pointe à 3,22. On va avoir des Français qui vont probablement très bien figurer sur ce contre-la-montre. On songe évidemment au champion de France en titre, Pierre Latour, qui est maillot blanc de meilleur jeune et qui aura à cœur de faire bien. Et puis il y en a d'autres qui ont tout intérêt à se dépouiller aujourd'hui. Le 7e du classement général, Romain Bardet. Et puis pourquoi pas le puncher Julien Alaphilippe, qui trouvera un parcours à sa convenance.
Très bien, on est obligé de s'arrêter quelques instants sur le bord de la route. On revient dans un instant pour la suite de l'Intégral Tour.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Pour le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France 2018 contre la montre individuelle de 31 km au Pays Basque entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette. Nous sommes derrière la ligne d'arrivée avec Yann Pécheral, qui est un nouveau client à ses côtés, je crois. Élie Gébert, le coureur de la formation Fortuneo.
Exactement. Élie, un mot sur ce parcours. Tout le monde arrive très fatigué en troisième semaine, mais il est très exigeant.
Ouais, c'est pas un chrono pour les spécialistes, les gros rouleurs, je pense. Il y a vraiment beaucoup de relances, beaucoup de casse-pattes, des petites bosses courtes à chaque fois avec du pourcentage où il faut être capable de reprendre de la vitesse derrière. Donc arriver en troisième semaine, c'est compliqué. Et je pense que ce sera un homme frais, un homme du général qui gagnera le chrono. Ouais.
Ça ressemble à tout sauf à une étape de repos. Hein.
Ouais, loin de là. Ouais. C'est court, c'est très court. Enfin, c'est plus court qu'une étape comme hier qui a duré plus de 6 heures. Et c'est vrai que l'effort est tellement intense qu'au final, on se fait vraiment beaucoup plus mal.
Allez, un mot sur ton bilan du Tour de France. C'est ton deuxième tour. Quel bilan tu peux tirer aujourd'hui?
Positif. De toute façon, c'est que du positif. Faut prendre ça comme de l'expérience. Et mine de rien, c'est aussi... voilà, comme je disais, ça apporte au mental d'avoir des jours sans. C'est comme ça. Et d'être capable de surmonter ça, c'est dur. Mais à la fin, on se dit, bon, on va voir les champs. Et c'est ça déjà de fait.
C'est ton bilan, mais c'est un petit peu le bilan de l'équipe Fortuneo. On attendait beaucoup de Warren Barguil. Il y a un petit peu de déception.
Il y a pas de déception pour nous à avoir, du fait que voilà, on a été acteurs, on a donné le maximum, on a fait tout ce qu'on pouvait. Je pense qu'on nous a vu beaucoup à l'attaque. On aurait voulu bien sûr être récompensé par une ou plusieurs victoires, mais voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on n'a pas de regret à avoir.
Merci Élie.
Élie Gébert, coéquipier de Warren Barguil. Effectivement, le bilan est peut-être pas extraordinaire pour la formation Fortuneo, même si ce sont les seuls quand même à avoir réussi à faire chuter la Sky. On le rappelle, Jérôme, ouais. Puisqu'Élie Gébert avait été pris pour cible par Moscon. Bon, il a évité la mandale de peu, mais il a réussi à faire virer Moscon du Tour de France quand même.
Ah, c'est ça. Élie a éliminé un Sky. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Bon, je pense qu'il aurait préféré l'éliminer d'une autre manière, mais en tout cas, il a rien à se reprocher. C'est Moscon qui a fait une erreur et il la paye.
Ouais. Le bilan du Tour de France de Warren Barguil, Cyril. C'est vrai que l'an dernier, il était le héros français du Tour de France 2017, avec, on le rappelle, 2 victoires d'étape, le maillot à point, la Wawa Mania s'était emparée de la France. Cette année, eh bien, c'est la preuve que les tours se suivent et ne se ressemblent pas forcément pour tout le monde.
Oui, mais je pense qu'il était pratiquement impossible de reproduire cette année le tour de l'an dernier. Rappelons-nous, 2 victoires. Il aurait pu d'ailleurs, même à 1 ou 2 centimètres près, avoir une 3e victoire d'étape. Il avait été battu de quelques centimètres. Enfin, la photo finish, il pensait même avoir gagné d'ailleurs, si on se souvient bien. Puis finalement, la photo finish a dit que ça n'était pas lui, que c'était Rigoberto Urán. Et puis plus le maillot sur les Champs-Élysées, le maillot de grimpeur. Oui, c'était un tour idéal.
Tour idéal, tour un peu raté quand même cette année pour.
Non, mais je parle de l'an dernier.
Tu parlais de l'an dernier.
Warren Barguil qui s'est lancé dans de nombreuses échappées. Il a tenté de conserver son maillot à poids de meilleur grimpeur qu'il avait conquis de haute lutte l'an passé. De haute lutte ou pas d'ailleurs, parce qu'il était un cran au-dessus l'an passé. Cette année, il était simplement au niveau des autres, et il a trouvé en Julien Alaphilippe un adversaire qui était le Warren Barguil de l'an passé, simplement sur coussin d'air ou presse, tandis que Warren Barguil, lui, est revenu à un niveau un cran en dessous. L'an passé, il était chez les Néerlandais de Sunweb. Cet hiver, il a intégré les rangs de l'équipe bretonne Fortuneo Samsic, et tout cela met un peu de temps à se mettre en place, manifestement. Je crois que la meilleure place de Warren Barguil sur ce Tour de France, c'est lors du sprint à Sarzeau, lorsqu'il avait terminé, je crois, 14e de mémoire. En montagne, il n'a pas fait mieux.
Fred, je te coupe parce qu'on va derrière la ligne d'arrivée avec un autre client, avec Yann Pécheral, en l'occurrence le coéquipier de Romain Bardet et de Pierre Latour, Sylvain Dillier, le Suisse.
Sylvain Dillier qui vient d'arriver de ce contre-la-montre. Quatrième temps provisoire, quel est ton sentiment après ce chrono?
Ouais, c'est un joli chrono. Mais en fait, j'ai pas fait la reconnaissance. Je pense que c'était quand même un chrono. Il fallait bien connaître les virages et tout. Il y avait quand même des passages assez techniques et avec des surprises qu'on savait pas. Et donc, mais bon, finalement, j'étais juste là pour voir comment je me sentais après mon premier Tour de France. Et les sensations, c'était bien et c'est le plus important pour moi pour les prochaines courses.
C'est ton choix de ne pas avoir reconnu le chrono ou toute l'équipe ne l'a pas reconnu?
Je pense qu'il y avait certains coureurs qui l'ont reconnu avant le Tour encore. Mais bon, c'était un peu compliqué avec... on avait beaucoup de voyages ce matin déjà. Et donc hier soir, on n'avait pas du temps non plus, donc c'était un peu compliqué pour faire la reconnaissance.
De bonnes indications à donner pour Pierre Latour et Romain Bardet par contre?
Ouais, bien sûr, les directeurs, ils ont bien pris les temps intermédiaires, plusieurs. Et donc c'est toujours bien d'avoir un peu une idée où tu es quand tu veux jouer la gagne sur cette étape-là.
Sylvain, le bilan de l'équipe AG2R à la mondiale, bon, bien sûr, Pierre Latour va ramener le maillot blanc à Paris. Romain Bardet n'a pas encore fait ce chrono, mais c'est un bilan un petit peu décevant quand même.
Un bilan ?
Un petit peu décevant pour l'équipe AG2R à la mondiale. Romain partait pour gagner le Tour et il y a de la déception quand même chez vous.
Bah, la déception, je veux pas dire... On savait, gagner le Tour de France, c'est quelque chose, il faut avoir tous la bonne chance et tout doit être parfait. Et c'est vrai qu'on avait un peu malchance sur certaines étapes aux premières semaines. Après les deux semaines suite, c'était de temps en temps pas super non plus, mais... je pense qu'on a quand même beaucoup appris et on pouvait quand même éviter beaucoup des choses. En fait, correcter certaines malchances. Mais oui, à la fin, peut-être c'était pas cette année, mais Romain, il est encore jeune. On est une jeune équipe. On avait malchance. On a perdu 3 équipiers dans la première semaine et donc... ouais, peut-être c'était pas notre année cette année, mais on a encore des bonnes années devant nous.
Merci Sylvain, un bon bilan et puis déjà une projection.
Sylvain Dillier, auteur du quatrième chrono pour l'instant.
Ouais, c'est intéressant ce que dit Sylvain Dillier en réponse à la question de Yann. Est-ce que ce tour est décevant chez AG2R La Mondiale? Il a fait répéter la question à Yann. Et j'ai l'impression que c'est un sentiment fort légitime qui est répandu au sein de la formation de Vincent Lavenue. C'est difficile quand même de considérer que ce Tour de France est manqué quand on termine
top 10,
exactement 7e du Tour. Les deux dernières années, oui, il y a eu beaucoup de réussites avec les 3e et 2e places au classement général de Romain Bardet. On se souvient que Jean-Christophe Perrault avait fait 2e également lorsque Bardet avait fait 3 me semble-t-il ou cinquième, je sais plus. En tout cas, c'est compliqué de maintenir un tel niveau de résultats si on n'est pas Sky. Et il fallait bien que face à une telle hégémonie de la Sky, eh bien Romain Bardet en paye peut-être le prix cette année. En tout cas, il n'a pas été en dessous de son niveau, j'ai l'impression, Romain Bardet.
Romain Bardet qui peut même envisager de gagner encore une place au classement général ce soir, puisqu'il n'est séparé que de 35 secondes derrière Mikel Landa, qui est plus un spécialiste de la montagne. On suivra cet exercice tout à l'heure. Bardet qui a déjà récupéré une place hier, puisque Quintana a connu une grosse défaillance dans l'étape hier. On va cette fois-ci sur la zone de départ avec Pierre-Yves Leroux, puisque le départ s'approche pour un certain Julien Alaphilippe, je crois, c'est ça, Pierre-Yves? Pierre-Yves Leroux. Non, il n'est pas là. On va le retrouver dans quelques minutes. Effectivement, Julien Alaphilippe qui est sur les rouleaux en ce moment, Jérôme.
Et voilà, il est à l'échauffement. Et quand j'ai reconnu le parcours ce matin avec Yann Pécheral, je me suis dit que c'était vraiment un parcours qui pourrait convenir à Julien Alaphilippe s'il le fait à fond, bien sûr. Mais en tout cas, casse-pattes comme ça avec ses qualités de puncher. Et on sait que c'est un beau rouleur. Il a déjà gagné des chronos au Dauphiné, notamment. Donc je pense qu'il peut...
Paris-Nice,
Dauphiné aussi, le dur quand on partait des jets en 2016.
D'accord, parce que Paris-Nice, il s'était imposé au Mont-Brouilly, me semble-t-il.
Et c'était aussi en bosse au Dauphiné. Donc c'est un parcours qui pourrait très bien lui convenir s'il le fait à fond. Et je pense qu'il devrait le faire à fond. J'aimerais qu'il le fasse à fond pour prendre des repères pour l'avenir et pour voir ce qu'il pourrait faire plus tard.
Et oui, pour savoir si un jour il pourra envisager de viser le classement général comme...
J'ai tendu une perche à Cyril, mais il l'a pas saisi.
Faire, Cyril Guimard.
Il l'a pas saisi.
Hein, Cyril? Cyril, ça...
j'y ai pensé, mais finalement, il n'est pas preneur.
Il n'est pas preneur, qui, Julien ?
Oui, pour les championnats du monde contre la montre, oui.
Ah oui, tu avais pensé le prendre pour le chrono des mondiaux.
Ben oui, c'est un parcours qui n'est pas très simple, mais je pense que pour l'instant,
qu'on le rappelle, hein, en Autriche.
Pour l'instant, il y a encore des choses à améliorer pour pouvoir jouer au plus haut niveau contre la montre.
On a l'impression qu'il n'a pas vraiment envie de se spécialiser là-dedans, pas de se spécialiser, mais en tous les cas de se compléter avec l'exercice du chrono qui lui permettrait d'envisager un bon classement général dans les années à venir. Est-ce qu'on a retrouvé notre ami Dédé? Est-ce que notre ami Dédé est là? Hein? On va voir ça tout de suite, Dédé.
Il est où, non? Dédé?
Ben oui, on l'a retrouvé puisqu'il est dans le camion aujourd'hui.
Eh oui.
Ben alors André, qu'est-ce qui se passe?
J'ai roulé mais ce matin, moi, en voiture.
Ce matin, toi, parce que
à la fraîche,
sous la pluie.
Ouais, sous la pluie, parce que sinon on a les coureurs un peu dans le dos. Et donc sur des parcours courts contre la montre, on fait la reconnaissance ou plusieurs reconnaissances du tracé, 3 ou 4 maximum, en fonction des équipes qui vont passer, poser les panneaux, mettre les ballots de paille, les protections.
Fois le parcours,
moi
toi.
Je l'ai fait une fois, mais des équipes l'ont fait 2, et au total on est à 4 passages. Pour vraiment vérifier ces tracés qui sont un peu particuliers sur les contre-la-montre, qui évidemment qui sont courts et qu'on essaie de rendre le plus homogène possible, que ça soit dans le traitement de la route ou dans les protections qu'on met en place, panneaux, bottes de paille, séparateurs de chantier, bombes de peinture rose sur les endroits saillants. Donc on fait ces passages à répétition, et le dernier est important parce qu'il est derrière la caravane publicitaire, en particulier sur des tracés comme celui-ci, sur des routes qui sont parfois étroites.
Vous balayez les
babioles, c'est ça. Il y a quelques babioles qui traînent que les gens ne prennent pas. Je me demande pourquoi. Quoi d'ailleurs, et donc là on passe un dernier coup de balai.
Il n'y a pas grand chose d'intéressant comme gadget dans la caravane publicitaire, ouais. Moi je trouve. Si Fred, tu trouves toi?
Je sais pas, désolé, j'ai pas eu le temps d'aller voir la caravane publicitaire cette année.
Bon, nous on balaye, nous, ce qui reste, ouais. Donc il reste pas grand chose, mais ce qui reste n'est forcément pas terrible.
Ah, le truc le plus intéressant, c'est le petit ventilateur portatif de la gendarmerie nationale. Je sais pas si vous l'avez vu ça, monsieur Dédé.
Je ne l'ai même pas eu, à contrario avec eux, c'est un scandale.
Tu le branches sur une prise USB, ça te fait un
bien,
c'est parfait ça.
C'est bien ça. Il y avait aussi l'objet pour mesurer la profondeur des sillons dans les pneus de voiture. Ouais, ça c'est
pour
un
porte-clé
pour contrôler l'usure des pneus de voiture. Ça,
ah ouais,
ça peut
pour
être
en vendre un peu plus,
pour vendre un petit peu plus de pneus, c'est pas mal. Je suis pas persuadé qu'ils aient pas un peu truqué les millimètres pour que ça soit plus court.
Il y a les bonbons Haribo évidemment,
bien
ça
sûr.
On est toujours preneur. Les saucissons Cochonou, ça aussi on est très très preneur. Surtout Yann Pécheral, mais il est pas le seul. Je vous rassure.
Ouais, ouais.
Voilà, donc balayage des babioles.
Ouais, donc on balaye de façon fine et subtile parce que on est vraiment sur des routes qui sont étroites et on essaye que le tracé soit rendu le plus propre après le passage de tous les véhicules, que ça soit les suiveurs, la caravane et aussi les équipes sportives qui font rouler leurs coureurs en reconnaissance et qui les suivent de près. Et lorsqu'il y a une voiture qui est arrêtée sur le côté, ils n'hésitent pas à passer et à emprunter un peu les bas-côtés et un peu à mordre. Donc derrière, on nettoie pour que ça soit clean et que l'ensemble des coureurs soient sur le même pied d'égalité.
Alors là, l'état de la route aujourd'hui, ce sont des petites routes escarpées. On est au Pays Basque. C'est mal plat, comme dirait un certain Thierry Bourguignon. Ça monte, ça descend sans arrêt. Le revêtement a l'air plutôt pas mal. Attention, il a plu ce matin.
Oui.
Mais là, la route est en train de sécher. A priori, pas trop de danger de ce côté-là.
Ça a séché à l'exception de quelques petites portions sous les arbres. Ça, c'est une certitude. Ce matin, c'était bien plus mouillé. Et on avait quelques inquiétudes quand on a fait nos premiers tours en disant ça risque d'être un peu compliqué.
Très bien, merci beaucoup Monsieur Dédé. Demain, tu vas balayer les Champs-Élysées aussi
bien
un peu.
Bien entendu,
quand même.
Mais bien oui. sûr.
Ouais, avec le gros lion, ouais, il adore. Arrêter.
J'adore, oui. On fait nos petites arabesques sur les Champs-Élysées. On va balayer tout ça. On va mettre même des traits de peinture rose sur.
Oh là là.
Ouais, ouais. J'ai décidé demain, ça va être un festival.
Bon, et ben le festival Dédé pour la dernière étape en rose, donc demain sur les Champs-Élysées. Monsieur Bancala, merci. Parce que maintenant c'est Monsieur Bancala ouais. depuis qu'il a reçu la médaille d'or de fidélité au Tour de France après 20 grandes boucles bouclées. Là, quand même, j'espère que tu vas payer l'apéro demain. Merci. Merci André. 14h44 sur AMC, un petit top course Fred, on est, voilà, il y a combien de coureurs qui sont partis? 92 je crois en tout, hein.
92 qui se sont élancés, 70 qui en ont terminé avec ce parcours très exigeant aujourd'hui sur les routes vallonnées du Pays Basque, vertes et humides ce matin, mais qui effectivement, comme vient de le signaler Dédé, est en train de s'assécher. 70 coureurs qui en ont terminé et le meilleur temps toujours à la est toujours la propriété de l'Australien Michael Hepburn, ce coureur de l'équipe Mitchelton Scott qui devrait selon toute vraisemblance céder ce leadership dans les minutes qui viennent, dans les deux heures qui viennent en tout cas, parce qu'il y a du lourd, du très lourd à venir. On se bat pour le podium, on se bat pour le classement général aujourd'hui, arrivé sur les Champs-Élysées dans 24 heures seulement. Spectacle, spectacle à venir.
Merci Fred. 14h45, on se retrouve dans un instant sur la route du Tour de France. Le chrono du Pays Basque aujourd'hui en direction d'Espelette, 31 km sur les routes vallonnées du Pays Basque.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
14h49, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral Tour de France. Profitez-en, demain soir, on ferme, on solde même après le Tour de France 2018 qui s'achèvera. Donc dans 24 heures sur les Champs-Élysées. En attendant, c'est donc le chrono décisif pour les places au classement général. Peut-être pas pour le maillot jaune puisque l'avance de Geraint Thomas est assez conséquente. 2 minutes 05, jamais dans l'histoire du Tour de France, un garçon avec 2 minutes 05 d'avance n'a perdu le Tour avant le dernier chrono. Donc on voit mal ce qui pourrait arriver à Geraint Thomas, Jérôme, hein, à part un accident.
Oui, qu'on lui souhaite pas. Non. En plus, c'est un chrono qui lui convient plutôt bien. J'ai vu passer une petite info. Celui qui a perdu le Tour de France avec le plus gros écart, c'était 1 minute 37, c'était Vietto en 1947. Mais le chrono faisait 139 km.
Ah oui.
Il avait 1 minute 37 d'avance au départ et il a perdu le maillot jaune au profit de Brambilla. Ah, mais le chrono faisait 139 km.
On se souvient également d'un certain Laurent F.
Ça, c'est Cyril qui va en
Laurent
parler.
Fignon. Mais là, c'était pas l'avant-dernière étape, Cyril. C'était la dernière étape. Le chrono sur les Champs-Élysées. Et d'ailleurs, ça n'a plus jamais été fait ce genre de choses. Moi, je trouvais ça très bien. Même si, évidemment, on aurait préféré ce jour-là que Laurent s'impose devant Greg LeMond pour quelques secondes à peine. Mais l'écart était de combien d'ailleurs au départ du contre-la-montre, Cyril? Est-ce que tu t'en souviens?
Je me souviens plus de rien.
ta mémoire est sélective.
Il y a un blackout qui s'est opéré.
Blackout. Il a pris beaucoup de cheveux blancs ce jour-là, Cyril Guimard.
Non, j'en ai perdu surtout des cheveux blancs.
T'as perdu beaucoup de
attention,
cheveux.
Attention à l'arrivée à Espelette au terme de cette 20e étape, le contre-la-montre de 31 km. Nouveau meilleur temps provisoire a priori puisqu'il n'en a pas encore terminé. Le champion d'Espagne du contre-la-montre, un coureur de la formation Sky qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Est-ce qu'il va aller chercher ce meilleur temps provisoire? Il est à la bagarre avec Michael Hepburn et il va échouer Jonathan Castroviejo pour quelques toutes petites secondes. Il venait menacer le meilleur temps provisoire de l'Australien de l'équipe Mitchelton Scott. Les Sky qui viennent positionner ce Jonathan Castroviejo à la deuxième place provisoire. Castroviejo qui est sorti de son rôle d'équipier modèle aujourd'hui pour jouer sa carte personnelle. Résultat, il termine à 8 secondes de celui qui a réalisé un très très bon chrono ce matin, l'Australien Michael Hepburn, pur produit de la piste en Australie.
Castroviejo, redoutable machine à rouler, on a pu encore s'en rendre compte tout au long des étapes de ce Tour de France. Castroviejo qui roulait dans la plaine et même lorsque la route commençait à s'élever, il a été énorme, au même titre que l'autre équipier de Geraint Thomas qui est actuellement dans le parcours, un certain Mikhail, c'est comme ça qu'on dit, Katowski, l'ancien champion de Pologne. qui lui aussi a été un équipier remarquable. Il est à quelques centaines de mètres de l'arrivée désormais, Katowski, mais il est un peu plus loin.
Quelques dizaines de kilomètres puisqu'il vient de partir depuis une minute seulement.
Je croyais que le on nous annonçait le dernier kilomètre. Je m'avais marqué. Très bien. Vas-y, démerde-toi, Fred. Vas-y.
C'est Marc Soler qui est en train de passer au deuxième temps intermédiaire. Il faut le savoir, comme sur tout grand contre-la-montre du Tour de France, il y aura deux pointages intermédiaires et ce sera très, très instructif au moment où les prétendants au podium et même à la victoire d'étape s'élanceront tout à l'heure au-delà de 16 heures. On vous rappelle que le dernier à s'élancer sur ce contre-la-montre de 31 km. Ce sera Geraint Thomas, évidemment, maillot jaune sur le dos. 16h29 pour Geraint Thomas. Thomas qui a déjà remporté un contre-la-montre sur les routes du Tour de France. On s'en souvient tous. C'était l'an passé à Düsseldorf.
Premier maillot jaune du Tour.
Le Gallois qui, du coup, avait effectivement endossé le maillot jaune. Sachez que le Castro Viejo, qui vient de terminer à 8 secondes de Hepburn sur la ligne d'arrivée, avait justement pris le meilleur temps provisoire au terme du premier point, au premier passage intermédiaire au kilomètre 13. Il y aura un deuxième chrono intermédiaire au kilomètre 22 et donc l'arrivée au kilomètre 31. 75 coureurs en ont terminé. Il reste 48 coureurs ensuite à s'élancer sur la rampe de lancement.
Geraint Thomas qui avait remporté le premier chrono du Tour mais qui avait vu sa grande boucle s'achever quelques jours plus tard lors de la 9e étape. Une chute et une fracture de la clavicule qu'il avait donc sorti du Tour de France. Les paris tout de suite.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Physique, Poker.
Salut Benji.
Salut messieurs.
Alors Benji, les favoris pour ce chrono, est-ce que ce sont les mêmes qu'hier, les classés, les bien placés en tous les cas au classement général?
Oui, ce sont exactement les mêmes qu'hier soir. Le favori, c'est Primoz Roglic qui est à 2.15 au moment où on se parle et juste derrière lui, Tom Dumoulin, deuxième favori de cette 20e étape à 2.30. C'était d'ailleurs les deux favoris de la Dream Team. Un seul homme a résisté à l'envahisseur, il est bizarrement du côté de la Bretagne, c'est un village qui résiste encore, c'est Monsieur Cyril Guimard qui a joué Chauvin, Cyril, avec Pierre Latour.
Ouais Cyril, hein, Pierre Latour, tu confirmes ton pronostic d'hier?
Non mais moi vous savez, je vous l'ai dit depuis des années, je suis toujours fidèle.
Très bien. Il fait des interventions très efficaces depuis le début de ce direct, notre
ça
ami
fait
Cyril.
48 heures qu'il est sorti du tour. Hein. Cyril qui peut-être a un peu tiré sur la corde, j'ai pas dit sur l'élastique, hein, mais au moins sur la corde, tout au long de ces 3 semaines du tour. Cyril qui va à tous les coups briller de mille feux demain sur les Champs-Élysées, ce sera son terrain de bataille.
Je suis toujours obligé de faire court puisqu'on me coupe la parole.
Ah oui, c'est pour ça, il est vexé en fait. Fred, ton favori pour aujourd'hui?
Ah, c'est Roglic, évidemment, c'est difficile de dire autre chose. Il a tout, Primoz Roglic. Il a un certain savoir-faire sur le contre-la-montre. On se souvient qu'il s'était révélé aux yeux, non pas du grand public, mais des spécialistes. En s'imposant sur un contre-la-montre de plus de 40 km sur les routes du Tour d'Italie. Cela avait fait jaser d'ailleurs à l'époque.
Surtout toi.
Il y a quelques années. Oh, ça me fait toujours
jaser.
Jaser
souvent, tu sais Fred.
C'est un grand jazzman, tu le sais bien. Et surtout, il a la forme qu'il faut. Il a montré hier en attaquant à 3-4 reprises dans l'ascension de l'Aubisque via le Soulor. Il a montré qu'il avait encore beaucoup de jus. Il termine ce Tour de France dans la forme de sa vie. Ce sera a priori très compliqué de battre un Primoz Roglic surmotivé par la perspective d'un podium sur le Tour.
Primoz Roglic qui s'élancera tout à l'heure à 16h25. Voilà pour les paris. Merci Benji, à tout à l'heure.
PMU.fr, numéro 1 du pari en termes d'enjeu en 2017, voire conditions sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
16h, on revient juste après pour la suite de ce chrono de 31 km. Dernier grand rendez-vous de ce Tour de France. On vous rappelle que Geraint Thomas sera le dernier à partir tout à l'heure avec le maillot jaune sur les épaules, plus exactement une combinaison jaune qui a été faite sur mesure hier soir. 16h29, donc pour le départ de Geraint Thomas.
RMC, Intégral Tour.